Radio Prague, les informations.
Le président de la République a ratifié les réformes du système social et du système de santé. D'après le Financial Times, la Tchéquie serait un pays rongé par la corruption. Et en football, les Tchèques ont été sanctionnés pour leur comportement après le match de barrage. Le président de la République, Václav Klaus, a ratifié une partie des réformes du système social et du système de santé rejetées par le Sénat, dont la majorité est à gauche. Le paquet de réformes avait été renvoyé à la chambre basse du Parlement, où il avait été approuvé après une semaine d'opposition des partis adversaires au gouvernement. La réforme du système de santé concerne de nombreux points. L'accès des patients à tous leurs dossiers médicaux, la réglementation de l'insémination artificielle, l'interdiction du clonage humain et bien d'autres. La réforme du système social, elle, instaure de nombreux changements. Par exemple, les indemnités de chômage ne seront payées que si les chômeurs de plus de 2 mois effectuent un travail d'intérêt public de 20 heures. La Tchéquie est un pays rongé par la corruption où il est pratiquement impossible d'investir. C'est ce qu'on lit dans l'édition d'aujourd'hui du journal Financial Times. Selon le journal, la corruption aurait aussi un impact sur la vie de la population tchèque. Si les investisseurs désertent la Tchéquie, cela affaiblira encore l'économie déjà fragile du pays. Selon le journal, bien que le premier ministre tchèque Petr Nečas ait fait de la lutte contre la corruption une de ses tâches prioritaires, cette initiative reste pratiquement sans résultat. Et le journal d'ajouter qu'il faut chercher les racines de cette situation dans les années 90 où beaucoup de sociétés se sont enrichies dans la privatisation par coupons. Le quotidien tchèque, La Fronta Dnes, cite ce mardi plusieurs experts qui montrent du doigt le mémoire de master du ministre de l'Éducation, Josef Dobesch, grâce auquel il a obtenu en 1994 un diplôme en psychologie à l'université Masaryk de Brno. D'après les experts interrogés par le journal, ce mémoire serait pauvre, creux et n'aurait pas dû être soutenu. Le professeur qui a supervisé le travail de monsieur Dobesch, Vladimir Smekal, est à l'heure actuelle son conseiller. Josef Dobesch a réfuté toute critique dans une interview accordée au journal la semaine dernière. Il avait affirmé que des critères plus stricts devraient être imposés pour l'entrée des étudiants à l'université. On parle un peu de sport maintenant. La Fédération tchèque de football a annoncé lundi avoir infligé une amende de 78 000 euros à l'équipe nationale et à son entraîneur Michal Bilek pour une faute inconvenante après la victoire 0-1 contre le Monténégro mardi passé à Podgorica en barrage qualificatif pour l'Euro 2012. Miroslav Pelta, le nouveau président de la Fédération, avait pourtant laissé entendre que les joueurs bénéficieraient d'une mesure de clémence de sa part. Le capitaine Tomasz Rosicki avait de son côté demander un peu de compréhension compte tenu de l'émotion et de l'euphorie après la qualification pour l'Euro. Et puis un mot de tennis au tournoi de Masters de Londres. Le tchèque Tomáš Berdych s'est incliné à l'issue d'un match dramatique devant le serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial, 3-6, 6-3, 7-6. Le numéro 1 mondial a même dû écarter une balle de match dans le troisième set. Un mot de météo pour terminer. Mercredi, le temps en République tchèque sera couvert avec des éclaircies sur les régions montagneuses et les températures maximales se situeront entre 1 et 5 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Magdalena Rosenkova.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue dans ce magazine d'actualité de Radio Prague. Aujourd'hui, Radio Prague donne la parole au cardinal André XXIII, l'archevêque de Paris, est venu dans la capitale tchèque à l'occasion d'une conférence autour de la cathédrale Saint-Guy de Prague. Nous l'avons rencontré. Nous parlerons ensuite de la grande coalition à la mairie de Prague qui se désagrège. Nous vous expliquerons pourquoi. Jiří Smetana, figure importante du monde du rock en République tchèque mais aussi en France, sera l'invité d'Anne-Claire Veluire dans la rubrique Panorama. Magdalena Rosinkova vous souhaite bonne écoute. Le cardinal André XXIII était à Prague ce lundi 21 novembre, une date qui n'était pas le fruit du hasard puisque l'archevêque de Paris a notamment assisté à une conférence organisée par l'archevêque de Prague, Dominik Duka, autour de la cathédrale Saint-Guy. La première pierre de l'édifice qui se trouve dans l'enceinte du château de Prague a en effet été posée un 21 novembre en 1344. À l'occasion de cette visite dans la capitale tchèque et en s'appuyant sur l'exemple de Notre-Dame de Paris, André XXIII a prononcé une allocution sur la place des cathédrales dans la vie politique, sociale, religieuse et liturgique, et sur les cathédrales comme lieu d'aboutissement des drames nationaux et internationaux. En marge de cette conférence, Radio Prague s'est entretenue avec le cardinal André XXIII sur des sujets d'actualité qui lui tiennent à cœur, à savoir la crise de la famille dans les pays développés, les problèmes liés à la migration, à la tolérance ou l'intolérance religieuse, ainsi qu'à la crise financière actuelle. Quel est donc le message que l'Église catholique s'efforce de faire passer au public dans cette situation de crise de la dette qui touche l'ensemble de l'Europe, André XXIII?
Il faut comprendre que nous ne sommes pas dans un système qui est exclusivement rationnel. Donc il ne suffit pas d'expliquer pour que les gens comprennent. On peut expliquer que 2 plus 2 égale 4, mais si vous avez intérêt à ce que 2 plus 2 égale 5, vous n'acceptez plus que 2 plus 2 égale 4. Et donc on peut expliquer qu'il y a des mesures à prendre, des modes de vie à transformer, des façons de consommer à revoir, mais ça ne peut être entendu que par des gens qui ont conscience qu'il y a d'abord un déséquilibre réel, mais pour qu'ils en prennent conscience, il faut qu'il y ait une crise, comme précisément nous la vivons en ce moment, et aussi que les gens prennent conscience que ils ont besoin d'autre chose que la consommation. Et ça, c'est beaucoup plus difficile parce que tout le système de communication de notre société repose sur le développement de la consommation, puisque tous les moyens de communication sont financés par la publicité en majorité, et que cette publicité repose sur la capacité de développer le besoin de consommer. Et donc, toute la communication culturelle globale repose sur cette idée que plus on consomme, plus on produit, ce qui n'est pas vrai, et que plus on consomme, plus on avance vers une solution. Or, la crise que nous traversons, c'est précisément que la consommation n'est pas la garantie de l'équilibre, mais qu'au contraire, pour rétablir l'équilibre, il faut réduire la consommation et donc entrer dans un discours inverse, ce qui est très difficile.
Et comment alors les chrétiens devraient se comporter dans cette situation? Avez-vous des demandes spécifiques
Les chrétiens doivent d'abord puiser dans l'Évangile et dans leur expérience de la foi, la conviction que l'accomplissement, l'épanouissement, la réussite de l'existence humaine ne repose pas exclusivement sur la possession des biens. Je vais prendre un exemple, si vous voulez. Nous avons dans nos pays développés un certain nombre de personnes qui sont entraînés par la vie, par leur travail, par leur manière de vivre, à délaisser les liens étroits qui doivent exister dans une famille. Si un père de famille, une mère de famille n'est jamais là pour s'occuper de ses enfants, si un homme et une femme n'ont jamais le temps de parler ensemble, ils vont vers l'éclatement de leur famille. Et donc, ils vont vers une catastrophe. Bien. Il faut qu'ils prennent conscience que pour leur réussite personnelle, pour leur épanouissement, pour l'accomplissement de leur vie, il faut respecter un certain nombre de priorités et que parmi ces priorités, il y a les relations normales, ordinaires, de la vie quotidienne, les engagements à l'égard du conjoint, à l'égard des enfants, à l'égard de la famille, et que ça, c'est plus important que de gagner 10% de plus.
C'était le cardinal André XXIII sur Radio Prague. La coalition à la municipalité de Prague vit très probablement ses derniers jours. Le mariage hétéroclite du Parti civique démocrate, ODS, formation de droite, avec le Parti social-démocrate, CSSD, ne convient plus à ceux qui l'ont conclu à l'automne 2010. L'ODS explique ce divorce par la volonté d'éviter l'endettement qui menace le budget municipal. Mais la raison véritable se trouve probablement ailleurs. Václav Richter.
C'est le parti Top 09, formation de droite, qui a gagné les élections municipales à Prague en 2010. Il s'est cependant fait évincer lors des négociations post-électorales par la grande coalition de l'ODS et du CSSD, un mariage contre nature qui avait alors provoqué un tollé parmi les électeurs. Ces derniers ont organisé toute une série de protestations accusant publiquement les politiciens municipaux de ne pas respecter le résultat des élections pour faire valoir leurs intérêts particuliers. Aujourd'hui, il est donc évident que c'était une coalition bien fragile et il semble que les raisons pour lesquelles elle a été créée n'est plus raison d'être. Selon le président de l'organisation pragoise de l'ODS, Boris Chiasny, c'est le refus du CSSD de faire des économies qui a brisé cette coalition. Quant au président de l'organisation pragoise du CSSD, Petr Hulinski, il explique, lui, le divorce par les rapports tendus entre les deux parties.
Aujourd'hui encore, nous n'arrivons pas à trouver de consensus sur les postes des directeurs adjoints des départements de la municipalité et des directeurs des sections. Il y a un manque de discipline budgétaire. Rien que pour la construction de la piscine de Chutka, le budget est basé sur un investissement de 150 millions de couronnes. Or, la somme investie dépasse déjà les 300 millions.
Le maire de Prague, Bohuslav Svoboda, de l'ODS, refuse cependant les raisons budgétaires, bien qu'elles soient présentées par son propre parti.
Le budget est pratiquement bouclé. Évidemment, il doit encore être soumis au conseil municipal. Je pense toutefois que nous allons présenter un projet de budget correspondant aux conditions actuelles. L'idée que nous ne soyons pas capables de préparer le budget est donc fausse.
Et Bohuslav Svoboda d'ajouter que la détérioration des rapports entre les deux parties de la coalition municipale résulte sans doute aussi du différend concernant l'appel d'offres pour un projet de traitement des déchets dont le montant est estimé à 10 milliards de couronnes, quelque 380 millions d'euros. Il désire maintenant informer sur la situation à l'hôtel de ville de Prague le premier ministre et chef de l'ODS, Petr Nečas. Les commentaires dans les journaux laissent entendre que la situation actuelle à la mairie de Prague serait avant tout la conséquence de la lutte entre deux fractions au sein de l'ODS, dont l'une est représentée par Bohuslav Svoboda et l'autre par Boris Chiasny. Toujours est-il que c'est le moment du retour sur l'échiquier municipal de Top 09, vainqueur des dernières élections. Le chef de l'organisation pragoise du parti, František Laudát, se déclare prêt à négocier une nouvelle coalition.
Bien sûr, comme nous disposons du plus grand nombre de membres au conseil municipal, nous entamerons des négociations. Nous ne posons pas de conditions préalables, nous commencerons à négocier avec l'ODS et nous nous pencherons aussi sur une éventuelle coopération avec le CSSD. Je n'exclus pour l'heure aucune possibilité.
Les parties concernées par ces négociations n'envisagent pas pour le moment la possibilité d'organiser des élections municipales anticipées.
Dans la rubrique Panorama, aujourd'hui, nous vous proposons la suite de l'entretien avec Jiří Smetana, figure importante du monde du rock en République tchèque, mais aussi en France. Auteur de textes de chansons devenus aujourd'hui des chansons cultes en Tchécoslovaquie, il quitte la capitale tchèque au début des années 70 pour devenir producteur et programmateur musical de la principale scène rock parisienne, le Gibus. On écoute Jiří Smetana au micro d'Anne-Claire Veluire.
Panorama.
Panorama. Après
Après sa carrière tchécoslovaque avec les Matadors ou Blue Effect, groupe très important des années 60, comme nous l'avons rappelé dans la première partie de cette émission, Jerzy Smetana se retrouve en France au début des années 70. Il commence à travailler au Gibus, célèbre salle de concert parisienne, et en devient le programmateur musical. Il se révèle être un formidable découvreur de talent. On écoute Jerzy Smetana.
J'étais DJ pendant le week-end au Gibus. Et pendant la semaine, j'étais en Angleterre et j'ai vu la salle de répétition, j'ai vu la maison de disques anglais, je connaissais plein de monde à Londres et à Paris. Donc j'ai fait venir beaucoup de groupes d'Angleterre qui venaient jouer au Gibus. Parce que pendant la période que j'étais là-bas, parce que j'ai programmé entre 1979 jusqu'en 1996, ça fait 17 ans. J'ai fait passer peut-être 5000 groupes pendant cette période, ce qui est énorme.
C'était la plus grosse scène rock de France ?
Ah, certainement.
Et comment vous choisissiez ?
Je donnais la chance à tout le monde. Je peux pas dire que j'ai refusé beaucoup de groupes parce que je donnais à chacun, plus ou moins, qui aimait bien s'exprimer sur scène, qui puisse le faire. Parce que la scène, c'est le moment de la vérité. Il y a seulement sur la scène qu'on peut voir ce qu'on est, s'il y a quelque chose. Parce qu'il y a plein de gens qui ont énormément de charisme quand ils sont assis dans le café, quand ils montent sur scène, ils n'existent plus. Et il y a certaines personnes qui sont à l'inverse, qui sont absolument invisibles, mais dès qu'ils montent sur scène, il y a quelque chose qui se passe. Donc, mon travail n'était pas tellement difficile parce que, vu qu'il n'y avait pas vraiment concurrence, parce qu'il n'y avait pas de club où ils programmaient des groupes inconnus, je recevais une cinquantaine de cassettes par semaine. C'était assez facile. Avec les groupes français, avec les groupes anglais, c'était un peu plus difficile parce que c'était déjà, il fallait payer des placements, des hôtels. Certains groupes étaient déjà connus en Angleterre, inconnus en France. Donc comment comptabiliser pour que les gens puissent les voir? J'avais pas d'aide de l'extérieur pour m'aider. Des fois avec la maison de disques, plus tard avec Jack Lang, qui à partir de 86, il m'a donné des subventions pour dédommager au moins les frais des groupes français qui jouaient là-bas, donc ça aidait beaucoup. Quand il y avait des groupes connus, des fois il y avait des concerts à 8h du soir parce qu'on savait qu'il y aurait du monde, mais les groupes connus, il n'y avait pas beaucoup parce que souvent on a passé les groupes avant qu'ils devenaient connus, comme Police, Pretenders, Stray Cats, personne ne connaissait. Quand ils ont passé au Gibus, après ils sont devenus mondialement connus, ou à la fin de carrière, quand ils descendaient en bas, donc ils sont revenus.
Jerzy Smetana acquit ainsi une véritable notoriété dans le milieu rock en France, si bien que Libération lui consacre un portrait où il le désigne comme le brave soldat tchèque du rock français. En République tchèque aussi, plus tard, dans les années 90, il fera connaître la chanteuse Viera Bila, surnommée la Ella Fitzgerald de la musique tzigane, en la faisant tourner dans le monde entier. Mais Jerzy Smetana a aussi été l'acteur d'un événement assez important pour l'histoire mondiale du rock. La réunion, 20 ans après leur séparation, du groupe mythique The Velvet Underground. Là où l'histoire est cocasse, c'est qu'y participe involontairement, mais très activement, le groupe tchèque Pool Notes. Or, le groupe Pool Notes était composé pratiquement des mêmes musiciens que ceux du groupe The Plastic People of the Universe, groupe interdit au début des années 70 en Tchécoslovaquie et poursuivi en justice en 1976. C'est leur procès qui a provoqué la création de la Charte 77. Pendant 20 ans, ces musiciens tchèques underground admiraient clandestinement Lou Reed et le Velvet Underground. On écoute Jerzy Smetana.
En février 90, Lou Reed est venu à Prague. Pas comme musicien, mais il voulait écrire un article pour Rolling Stone sur Václav Havel. Parce qu'il a appris que Václav Havel était en prison, qu'il a écouté sa musique quand Václav Havel était pour la première fois et la seule fois aux États-Unis en 68. Le disque qu'il a acheté, c'était le disque de Velvet Underground. Et il était touché avec ça. Il devait y venir à Prague avec sa femme de l'époque, qui était photographe Sylvia, pour faire une interview avec Václav Havel. Et Václav Havel lui a demandé s'il pourrait faire un concert à Prague pour lui. Il a dit, mais écoute, Václav, je n'ai pas ici la guitare, mais je ne sais pas comment faire. Et il dit, mais je connais ici un groupe qui sont des amis de moi, il s'appelle Velvet Underground Revival, et il joue le répertoire de ton groupe, et ce sera un immense honneur pour eux s'ils pouvaient t'accompagner. Alors ce soir même, Il y avait le concert sur une galerie au centre de Prague où Lou Reed a joué avec Velvet Underground. Il était très impressionné par le fait qu'il connaissait toutes ses chansons. Et après le concert, il a dit, c'était en 1990 et le Velvet Underground jouait dernièrement à 69. Ça fait 21 ans qu'il n'a pas joué avec Velvet Underground. Il a dit, c'est incroyable, mais je me sentais comme si j'avais retrouvé Velvet Underground. Il était très impressionné par ça. Et il parlait avec le road manager du groupe en lui disant qu'en juin 90, en été, il y aura une immense exhibition de Andy Warhol en Jouy, en Josas, où est le centre de Fondation Cartier. Il y a un très grand parc avec le château. Et c'est Cartier qui organise son plus grande exposition jamais faite auparavant. Et le roadie, il ne comprenait pas bien anglais. Alors quand Lou Reed est reparti, il a dit au groupe, vous êtes invités pour jouer pour Cartier et pour Lou Reed le 15 juin à Paris. Alors je suis arrivé à Paris vers le mois d'avril et je vois les gens du groupe de Pool Notes qui font... Pool Notes, c'est les mêmes personnes finalement qui sont Plastic People, Velvet Underground, c'est toujours les mêmes musiciens. Et ils m'ont dit, écoute Jerry, comment ça se fait? Nous on doit jouer 15 juin pour Lou Reed pour Cartier et on n'a pas de nouvelles. J'ai dit, mais écoute, c'est bizarre. Je suis allé voir chez Cartier. J'ai dit, mais comment ça se fait? Lou Reed a invité un groupe tchèque pour jouer à votre inauguration. Ils n'ont pas de nouvelles. Il dit, quelle inauguration? Nous, c'est vrai qu'on fait le 15 juin l'inauguration, mais il n'y a pas de concert. C'est seulement, il y a le parc, il y a le château, il y a l'exposition, mais il n'y a pas de musique, il n'y a rien. J'ai dit, ce n'est pas possible. Ils n'ont pas pu inventer ça. Ces gens n'ont jamais, ils ne savaient même pas qu'il y a un Cartier qui existe. Ils n'ont pas inventé ça. Alors, on a téléphoné à New York et Lou Reed a dit, c'est une excellente idée, c'est très bien que Pool Notes joue à l'inauguration. Alors Cartier m'a dit, bon, si Lou Reed le désire, bah, écoute, faites la production du concert, faites construire la scène et amener la sono. Et puis d'accord, on invite le groupe, il peut venir. Alors on est arrivé le 15 juin à la fondation. On savait que tous les membres de Velvet Underground sont invités à cette exposition. Donc il s'agissait de John Cale, Lou Reed, Maureen Tucker et Stanley Morrison. Et le groupe a joué ensemble dernièrement en 1969. Après ils sont séparés. La raison de la séparation c'était que c'était la mode. Velvet Underground, la mode était démodée. Ce n'est jamais été vraiment un groupe qui était très très connu par la population, par les autres personnes que les snobs de New York. C'était vraiment... pas grand monde connaissait. Donc ils ont dissous. Alors, Pool Notes a fini son concert avec relativement assez succès. Après, c'était John Cale avec Lou Reed. Et un seul coup, pendant la dernière chanson, on voit que Maureen Tucker dans les coulisses demande le batteur de Pool Notes de lui prêter sa batterie. Esther Link Morrison a demandé le guitariste Eric Sivka de lui prêter sa guitare. Et il montait sur scène, rejoindre John Cale et Lou Reed, et ils ont fait la version de 7 minutes d'une chanson qui s'appelle Heroin, une chanson de Velvet Underground. Alors c'était pour la première fois que Velvet Underground s'est réjoué ensemble après 21 ans.
Et ils jouaient sur les instruments de Pool Notes.
Sur les instruments de Pool Notes. Et la conclusion est, si le roadie tchèque parlait anglais, ça ne serait jamais arrivé.
Pour les musiciens tchèques, c'était un moment particulièrement important dans leur histoire.
Et même pour le Velvet, parce qu'après ils sont redevenus amis. Ils ont commencé, ils ont enregistré un album, encore un album ensemble, et ils ont fait une tournée mondiale l'année après. Ils ont fait la tournée mondiale.
Si le Velvet Underground était connu à l'époque, fin des années 60 ou début des années 70, que par quelques snobs new-yorkais, comment ça se fait qu'ici, une poignée de Tchèques est revendiquée, mais pendant 20 ans et depuis la fin des années 60, l'influence du Velvet Underground?
Ce sont des hasards. Il y a certainement, bon, il y avait pas grand monde. Il y avait certains groupes psychédéliques qui aimaient bien Zappa, qui aimaient bien Malice of Invention, qui aimaient bien les disques bizarres. Et ces disques-là, en faisaient partie, comme Václav Havel. Il était à New York, il a apporté le disque Velvet des États-Unis. Peut-être c'était lui qui a fait copier à quelqu'un sur le bande enregistrée. Peut-être c'est lui qui est précurseur du mythe de Velvet à Prague.
Voilà, c'était donc pour la petite histoire dans la grande histoire. Et on termine avec une chanson écrite par Jiří Smetana, intitulée « The Wall of Kampa », composée en l'honneur de John Lennon et des hippies tchèques qui résistaient en inscrivant, malgré les risques de poursuites policières, leur message « Peace and Love » sur un mur du quartier de Kampa, au cœur de Prague. Just right now, my reason to be. Remember our past, turning far away. You have been the last on my way, believing in me.
C'est ainsi que s'achève le programme de Radio Prague en langue française. Magdalena Hrozinková vous remercie de l'avoir suivi.